Et on se retrouve en ce mois de novembre sur Radio Grand Air, votre émission mensuelle consacrée à la culture, à la langue occitane, avec nos deux complices, Jean-Claude Dugros, Marilyn Désert. Bonjour à tous les deux.
Adichat.
Bonjour à toutes.
Et voilà, c'est l'automne, les feuilles tombent, mais pas nous, puisque nous sommes là pour ce mois de novembre, avec une belle émission que vous avez préparée. Et vous allez donner le sommaire, mon cher Jean-Claude.
Voilà, ben écoutez, on est adichat à toutes. Et le mois de novembre, donc, nous rentrons dans l'automne profond. On va parler de la Saint-Martin.
Oui.
La Saint-Martin, l'été de la Saint-Martin, l'estio de la Saint-Martin. Et puis, bon, on va parler... Il y a une revue qui s'appelle « Parole des nouvelles lunes », qui est éditée par l'IEO, par l'IEO Périgord. Et dans ce numéro trimestriel... Il y a des petits textes, il y a des textes d'enfants, voilà, la calendrette de Périgueux. Les enseignants sont très, très. Se sont intéressés donc, à ce que pensaient les enfants, etc. Donc ils leur ont fait écrire des petits textes en occitan. Et voilà, bon, c'est ça le mérite. Moi, je trouve que c'est bien. Et puis après, Marie-Hélène va nous parler de.
Des mégalithes.
Ah, alors. Mégalithe, comment on dit en occitan?
Bonne question.
Mégalithe. Voilà, oui. Et puis,
une belle Peyron, une Peyron Levado.
Ah oui, parce que il n'y a pas une commune en Périgord où il n'y a pas sa Peyron Levado. Peyron Levado, il y a même Pierre Levé. Il y a un endroit, il s'appelle Pierre Levé. C'est le... Voilà. Voilà, puis quelques poèmes, puisque, bon, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça ne fera pas de mal quand même. Il y a Jean Boudou, Max Rouquette, voilà, on va parler d'amour, on va parler de langue, on va parler un peu de tout. Et puis, si on a le temps, Jean Rigouste, qui a écrit un livre sur la toponymie, nous expliquera tous ces mots en IE, en Périgord. C'est là où il y en a le plus d'ailleurs, c'est bien souvent. Le suffixe IE, on l'appelle le suffixe Périgord. Il y en a partout, mais en fait, c'est surtout en Périgord où il y en a le plus. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit, il s'appelle la Bernardie, la Renaudie, les Aisy, etc. Voilà, on essaiera de parler de ça. Ça vous va, monsieur le directeur?
Ça me va très bien, patron. Merci, Jean-Claude, pour cette présentation. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par donner un petit peu nouvelles de ce mois de novembre avec l'éphéméride.
L'été de la Saint-Martin. Alors voilà, donc c'est toujours tiré du recueil de Michel Chadeuil, qui s'appelle « Des mois et des jours », qui est toujours en vente. Voilà donc, voilà ce que nous dit Michel. Martin est un des saints les plus populaires. D'ailleurs, Martin est un nom de famille le plus répandu en France. Donc si on lui ajoute la forme Marty, M-A-R-T-Y, qui représente sa prononciation occitane, c'est encore plus évident. Il n'y a pas si longtemps, on ne parlait pas de l'été indien, mais de l'été de la Saint-Martin. Retour à cette période de jours lumineux. Pourtant, si l'on regarde les anciens proverbes, ce n'est pas ce soleil tardif qui est évoqué. Quand pleut au Père Saint-Martin, jale la plante et maille l'ouvie. Quand il pleut à la Saint-Martin, jale la plante, comprenez la vigne, même le vin. Quand Martin rit, Cathy impure. Cathy, c'est Catherine. Hein. S'il fait soleil le jour de la Saint-Martin, il pleuvra le jour de la Sainte-Catherine. C'est un peu tel qu'il rit vendredi, dimanche pleurera. Hein. Et réciproquement, sans doute, à cette saison, le soleil n'est jamais là pour très longtemps. Il est un temps pour le rire et un temps pour les larmes, tel qu'il rit vendredi, dimanche pleurera. Tout le monde n'est cependant pas d'accord. À Salignac, on dit « tel jour Marty, tel jour Cathy ». Tel jour Martin, tel jour Cathy. Et on en conclut que le temps sera le même lors de la foire du 9 décembre. À la Saint-Marty, l'année où ils ont sami, un cami. Si est-ce pas l'ousser, y est-ce le mati. À la Saint-Martin, la neige est en chemin. Si elle n'y est pas le soir, elle y est le matin. Après la pluie et la neige, on est bien loin du petit été. Nous attendrons certainement un peu plus avant de voir tomber la neige. Ce proverbe, comme le suivant, atteste du réchauffement climatique actuel. C'est vrai, c'est très net. Hein. Per Saint-Michel, la neige est en sel. Per Saint-Marty, drepti ta porte, est ici. À la Saint-Michel, la neige est au ciel. À la Saint-Martin, ouvre-lui la porte, elle est ici. Il y a bien longtemps qu'il n'a pas neigé le 11 novembre. Hein. Vers la Saint-Martin, si l'eau fraîche n'est pas l'insert, il sera le matin. À la Saint-Martin, si le froid n'est pas le soir, il y est le matin. À la Saint-Martin, jarre au serre au matin. À la Saint-Martin, il gèle du soir au matin. C'est curieux, quand même, parce que c'est le contraire de ce qu'on parle de la Saint-Martin, de l'été de la Saint-Martin. Et lui, il a trouvé des proverbes qui disent le contraire. La Saint-Martin desbonde de la barrique et à Toulouvie. Oui, ça c'est à la Saint-Martin, il faut débonder la barrique et goûter le vin. Per Saint-Martin, ben Toulouvie, et là il se laigue per l'oumouli. À la Saint-Martin, boit le vin et laisse l'eau pour faire tourner le moulin. C'est le moment de faire la provision de farine, comme en atteste aussi le proverbe suivant. Saint-Martin, esbano bio, esboio mouli. Saint-Martin écorne les bœufs et démolit le moulin. Les moulins doivent fonctionner à plein rendement. Quant aux bœufs, on peut interpréter cette allusion de deux façons. Ils doivent travailler jusqu'à l'extrême limite de leur force, ou bien le vent soufflera très fort, à l'inesbana los bio, vent violent qui peut aussi entraîner les pales des moulins. Père Saint-Martin tire la gorge de la toupie. À la Saint-Martin, retire le boudin du pot. Et le dernier, Père la Saint-Martin, la neu en sami, Père Santo Catarino et Charavesino. À la Saint-Martin, la neige est en chemin, et à la Sainte-Catherine, elle est chez la voisine. Là, on se rend compte quand même cette différence qu'il y a entre aujourd'hui, et il n'y a pas si longtemps que ça, le réchauffement climatique, il y a une incidence extraordinaire. Et Michel, il le dit souvent, tous ces proverbes-là qu'il a collectés, ils ne sont pas vieux, ils doivent être début 20e ou fin 19e, aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout la même signification 100 ans après, quoi, 100 ans, 150 ans. C'est incroyable l'incidence que peut avoir le réchauffement climatique.
Mais c'est l'industrialisation qui l'a précipité, finalement.
Oui, que... oui, il parle de la neige, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission, il parle de la neige en septembre, la neige, ouais. C'est fini, quoi. Dans nos régions, à Port-Sainte-Foy peut-être, mais à Sainte-Foy, non.
C'est la frontière.
Avec
la Gironde ou le Périgord, tout simplement.
Voilà, on va découvrir, enfin, certains d'entre vous là, la connaissent déjà, cette nouvelle chanson de Francis Cabrel, voilà, puisqu'on sait que Francis Cabrel, avec l'aide de Jean Bonnefond de Peyragudes, il travaille beaucoup pour les langues régionales, et voilà, on va écouter ça. Voilà,
grand défenseur des langues régionales, oui. Effectivement, Francis Cabrel, qui, tu l'as dit, Jean-Claude, sort un projet. C'était aussi l'occasion de signer la musique d'un documentaire, en fait, avec une dizaine d'artistes, hein, qui sont là pour chanter dans différentes langues, en fait,
sur ce
titre, Un gramme de terre.
Voilà, des artistes qui chantent dans leur langue, puisque ce sont des véritables langues, voilà. Et donc, pour nous, c'est très intéressant et très valorisant de savoir qu'il y a quelqu'un de très, 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 très important pour nous qui défend les langues régionales.
Et apparemment, la plupart des musiciens qui ont participé à ce projet participent aux rencontres d'Astafor.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Ans, oui.
Et il a enregistré d'ailleurs chez lui, dans son studio.
Dans son jardin.
À Astafor.
Un gramme de terre.
Ouais.
On va retrouver Francis Cabrel et la bande de Francis Cabrel avec ses artistes tout de suite.
Sur un gramme de terre,
una grana qui s'inicasca dans un gramme d'ita,
qui se bat et qui monte tout droit vers la lumière,
qui chavole et qui monte tout droit cap à l'estero,
en buvant aux averses, en évitant les coups,
et plus la pluie pour vrai, plus fausse pour parler,
des gens qui la renversent,
y a gens qui la varrent,
des vents qui la traversent,
des vents qui la traversent,
et qui restent debout,
pero que son de vrai,
et toujours le pigeon,
et si ni sta di
su,
et qui de tous ces stars,
c'est l'histoire du monde, t'en verras pas la fin.
C'est chaque geste faux, uns rival du vaux, sans n'être ça de faux.
La racine est profonde, c'est d'elle que l'on tire.
La racine est profonde, est d'elle que t'es.
La fièvre et le courage de jamais renoncer. C'est tout sauf un mirage. Un jour de sang feuillage,
non, spa et torche taille latine,
tu entendras glisser.
Ya usted en su lenda.
Un autogramme qui tourne. Sous un autogramme de terre.
Ens empara i ens fa avançar.
Om ahogua, om tahulak, devum wahu.
zen, dantzari nahi gaitu.
De terre à l'instant, Francis Cabrel. On est passé par la Bretagne, la Corse aussi. Voilà, on voyage beaucoup avec Francis Cabrel et ce projet à l'instant sur Radio Grand Air.
Voilà, toutes les langues régionales. Merci Francis, c'est vrai que c'est très agréable de voir une personnalité comme ça prendre la défense, on va dire, ou essayer de valoriser les langues régionales qui les méritent bien.
Mais il n'a jamais perdu son accent et c'est ce qui fait aussi que on s'attend tout à fait à ce qu'il le fasse.
Ah oui, oui, oui. Il raconte qu'au début, quand il a enregistré, là, il était à Paris dans un studio et il disait la rose. Et alors quelqu'un a tapé au carreau, à la vitre du studio, il lui a dit « on ne dit pas rose, on dit rose ». Alors il dit, moi à l'époque j'étais pas rebelle comme maintenant, mais donc j'ai accepté et donc j'ai chanté ma chanson et j'ai dit rose. Aujourd'hui, je ne le ferai plus. Aujourd'hui, il a gardé son accent. Voilà, donc dans une revue hein, qui paraît tous les trimestres, qui s'appelle Parole de Nouvelum, on a ce trimestre, le numéro d'octobre, on a quelques textes des calandrous et des calandrounes. Les calandrous et les calandrounes, ce sont les élèves, les petits garçons, les petites filles, qui étudient l'occitan dans les calandrettes. Et voilà, donc, leur instituteur, institutrice, leur a demandé d'écrire un petit texte. Voilà, donc, ce sont des enfants qui ont entre 5 ans, 6 ans et 10 ans. Voilà, donc, je vais vous en lire un ou deux. Alors, il y en a un qui s'appelle « La drôle et la zestature ». Era un cop une drôlissune queimavo beu cop la campagne. Los aubres, la flou. Et tout plein d'autres choses de la nature. Un jour, sous pareil, n'y préparait rien de l'enfant qu'à ce croûte de nos bras, pas bien loin de la maison. À aurore, la droulissoune era de consen. Demi-heure mai tard, le brave monde era de l'oupra. Le parrain demandait à aurore de sortir les entrepas et la chips. Quand la guerre en s'abat de dina, le pays s'en est déjà iré per fa prangière et la maille se mettait de légis. À Aurore, vous guette dans ses permenats, s'enfonçait d'un loubo, subrant ses sentiers braquados et s'écouillait au pied d'une arbre. Quand s'éveillait, viguait une escureau qui reclina sous elle. Ce qui y est, c'est que l'animal sient à la broue de la forêt. Riebait d'un champ tout plein d'estatures. S'en tournait raide à la forêt pour dire à sous parrain ce que Benio de découvrir. Quand les parents découvrirent les œuvres d'art, n'en siguèrent esbaubi. Aurore demandait si podion demourer un peu per juga, mais saberon per s'en tourner à leur maison. Voilà, je pense que c'est l'imagination des petits garçons et des petites filles. Alors après un autre, l'aubre maudit. Alors c'est toujours, c'est curieux parce que c'est bien là, ça reflète bien l'actualité aujourd'hui. Bien souvent, ce sont des contes fantastiques. C'est des contes, voilà, ça sort un peu de l'ordinaire, c'est des grottes, des gens qui apparaissent et qui disparaissent. C'est un psychologue ou un psy pourrait peut-être faire une étude là-dessus.
Mais ils sont simplement pas, à mon avis, pas encore trop formatés
oui.
par des formats de contes, par des formats d'histoire. Ils ne sont pas encore tellement formatés Netflix. C'est quand même assez bon signe, je trouve.
C'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Alors, une autre, l'arbre maudit, l'arbre, alors, je n'ai pas traduit, mais bon, c'est, voilà, c'est une petite fille qui va à la campagne, qui fait un pique-nique, et puis qui découvre, elle sort un peu de la, elle va à la limite de la forêt, puis elle découvre un champ plein de statues, bon, alors voilà, tout le monde est étonné, alors voilà, donc est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, elle a dû sans doute voir quelque chose un jour, et qu'il a frappé pour s'est resté dans sa tête. L'arbre maudit, l'arbre maudit. Era un cop un arbre, que l'arbre era brave, pla brave. Ma lo mondo lo sa fare un arbre maudit. Perché? Perché tu lo raubadi, tu lo murtre, se passavo a chi? Davanti all'arbre. Pertanto sembra lo brave, ma era maudit. Lei d'un la gente della ville andava jamais davant eux. Lo maire prevenio tout le nouveau habitant de s'approcha pas de l'arbre de la flor rousselle. Ma un jour, un nouveau habitant s'y get pas prevengut perché lo maire era malade. Quelle persona se sonava auro, e ima bobeu cu la flou, e sa coulour maieima de rolo rousseau. Lei d'un, quand vi get que l'arbre, lo vouget tuca. Ma taleu l'abbé tucat un orage pétait et aurore siguet obligeard de tourner chazelo. Après qu'un jour, Ribère nouma d'au malure à la pauvre aurore. Son desreveillado son n'est pas. Et l'aïdon ribet en retard à son travail. Et tant d'autres gens en taux li Ribère. Après tout coquille, se disait. Et sicuramente a causa de quel arbre, ma beleu che si la rose e che li baie de l'engrai, quel arbre si era più maudì. E oh, Aurore lo sapeva perché un matì, lo mai era venuto a vedere Aurore per la prevenire de passe prima de l'arbre. Ma era trop tard. Allora, la première jour même, Aurore aneta rusa l'arbre e li baie une bonne dose d'engrai e comasce. Le lendemain de matin, Aurore a guet mai de 30 pratiques dans son magasin. Et d'un pays qu'au jour, elle a ouvert au plus maudit, ma porta bonne chance. Voilà, donc, c'est l'histoire. L'histoire de la petite fille, elle a dû comprendre, sans doute. Le premier conte de la petite fille s'appelle Anaëlle. Et le deuxième, la petite fille s'appelle Romy. Voilà, c'est
bon, on retiendra quand même que quand le réveil ne marche pas, voilà, il fallait mettre une poignée d'engrais à l'arbre de la cour.
C'est la faute à l'arbre maudit qui fait que le réveil n'a pas sonné. Voilà, donc, Parable de Nouvelle-Lune, voilà, c'est une revue qui paraît tous les trimestres. Voilà, le numéro coûte 5 euros et je crois que l'abonnement pour 4 numéros doit être à 17 euros. Voilà, donc vous avez des il est pratiquement tout en occitan. Et il y a dedans, on va dire un feuilleton, c'est pas un feuilleton, mais c'est un article de Jean Aigouste justement sur la toponymie. C'est très intéressant. Là par exemple, c'est la troisième partie du Forgeron. C'est incroyable comme on peut écrire sur le mot « faure ». Ça fait 3 fois 5 pages, 15 pages, format A4. Il trouve à parler du forgeron, de la forge, etc. Il explique. Voilà, donc. Voilà, il y a aussi Jean-Pierre Reidy qui écrit des contes. Jean-Pierre Reidy, c'est un conteur, c'est un monsieur qui est du nord du département. Donc on trouve du nord du département et du sud, ça c'est bien. Il n'y a pas de sectarisme, il n'y a qu'une seule langue, il y a deux dialectes, mais bon, tout le monde a sa place, sans aucun problème.
D'ailleurs, Paraoul accueille, si vous avez envie, vous, auditeurs, auditrices, d'écrire quelque chose dans
oui,
Parable.
Bien sûr.
Les articles, les textes, les poèmes sont les bienvenus.
La parole est ouverte à tous les gens qui écrivent. Et même si vous ne savez pas écrire, disons, on peut très bien vous aider. Il n'y a pas de souci. Christophe, par exemple, si tu veux écrire un poème en occitan, tu veux raconter tes,
alors,
mémoires.
Je vais m'y mettre, Jean-Claude, c'est promis, au pied du sapin, je te ferai un petit cadeau.
Ah, merci. C'est noté, et puis alors il y a des témoins là. Hein,
Allez, un peu de musique. Hein,
oui, Guillaume Lopez.
Allez, Guillaume Lopez, qu'on connaît bien, en Périgord, il nous fait danser aussi, n'est-ce pas,
oui.
Marie-Hélène,
oui.
Voilà. Donc ça s'appelle Loulé Bétou.
Carnavalesa ri carnavalesa, carnavalesa riba, carnavalesa riba, fumo la pipa, fumo la pipa, carnavalesa riba, fumo la pipa, carnavalesa riba, carnavalesa riba, fumo la pipa, fumo la pipa, carnavalesa riba, fumo la pipa, carnavalesa riba, carnavalesa riba, fumo la pipa, fumo la pipa, carnavalesa riba, fumo la pipa, carnavalesa riba, fumo la pipa, fumo la pipa. Carnavalesa riba, carnavalesa riba, carnavalesa ri, carnavalesa, carnavalesa riba, carnavalesa, carnavalesa ri, carnavalesa, carnavalesa riba, carnavalesa, carnavalesa ri, carnavalesa, riba, carnavalesa, carnavalesa ri, carnavalesa. Carnaval è arrivato, fumo la pipo, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco. Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco. Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco. Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco. Carnaval è arrivato. Carnaval is arrivat, carnaval is arrivat, carnaval is arrivat.
Voilà un moment festif sur Radio Grand Air. On pourrait danser autour du feu, autour de la cheminée, comme ça, ce mois de novembre, ce mois d'automne, où on se met évidemment à écouter la radio.
On commence
devant un joli feu de cheminée, c'est original.
On va donner la parole à Marie-Hélène. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Marie-Hélène ?
Alors, figurez-vous, chers amis, que à la mi-octobre, j'ai proposé aux membres de l'atelier d'Occitan pour Sainte-Foy, enfin du pays foyen, de faire quelque chose sur les perles levadas, c'est-à-dire les menhirs, les dolmens, les mégalithes qu'on trouve dans la région. Il paraît qu'il y en a autant en Gironde qu'en Dordogne. Hein, j'ai une petite carte là qui mentionne que en Dordogne et en Gironde, on fait partie des départements dans lesquels on trouve jusqu'à une centaine de mégalithes. C'est quand même énorme. Donc j'ai parlé de ça. J'avais amené un petit article, etc. Et donc pour la prochaine fois, chacun est chargé d'écrire un petit quelque chose sur les mégalithes en général. Et puis, le 30 octobre, sur France TV, est passé un documentaire fort intéressant, en direct, que vous pourrez retrouver en replay. Comment on dit replay en occitan Jean-Claude.
Comment on pourrait dire tourna passa.
Eh bien voilà, un tourna passa sur France TV, vous pourrez retrouver ce documentaire, dont j'ai un peu oublié le titre, mais il suffit que vous écriviez France TV... Mégalith, Carnac, par exemple, et vous allez trouver. Il est très intéressant parce qu'il nous parle principalement, évidemment, des mégalithes de Bretagne, mais c'est un phénomène qui concerne toute la France, l'Espagne, un grand nombre de pays, généralement en bordure de mer, parce que pour pouvoir construire ces formations rocheuses qui sont quand même très imposantes, le menhir de Barnenez, je crois, le tumulus Saint-Michel mesure 125 mètres de long. Il abrite une tombe unique, hein, d'un seul personnage. Il fait 10 mètres de hauteur, 60 mètres de large. Pardon. Donc c'est vraiment une très grande construction. C'est le deuxième tumulus le plus imposant en Europe, en Dordogne, j'allais dire non, en Europe. Mais il y a aussi des mégalithes dressés, comme celui de, alors je ne saurais peut-être pas bien le prononcer, le menhir brisé d'Ergra, qui fait 280 tonnes, qui est en 3 ou 4 morceaux et qui mesurait 21,5 m de hauteur. Qui est quand même incroyable, avec des bas-reliefs qu'on a du mal à identifier parce que souvent c'est très érodé, bien sûr. Donc c'est vraiment la Bretagne qui est la plus connue et c'est de là qu'a rayonné probablement cette civilisation des mégalithes. Mais on en trouve pratiquement partout en France avec, contrairement à ce qu'on croit, non pas la Bretagne, mais le Lot, l'Aveyron et l'Ardèche en première ligne, puisque il y a en général dans ces départements plus de 500 mégalithes. Et puis donc la Dordogne et la Gironde arrivent juste en dessous de la Bretagne, avec quand même jusqu'à parfois 100 mégalithes dans le département. Alors ils sont souvent cachés dans la végétation, parce que certains datent de 5000 ans, et donc au bout de 5000 ans quand même en général... Il y a de l'humus par-dessus, il y a de la mousse, on ne les trouve pas, mais ils existent bien. Ils ont parfois été déterrés, cassés, débités pour pouvoir cultiver. Quelquefois, ils sont restés dans les légendes locales, puisqu'on parle de table des loups, on parle de table de sacrifice, enfin tout un tas de fantasmes sont nés de cette civilisation dont on ne sait rien, ou pratiquement rien. Aujourd'hui, on ne sait pas qui. On ne connaît pas les populations qui ont construit ces mégalithes, parce qu'il fallait les débiter, il fallait les préparer, piqueter les pierres pour pouvoir ensuite sculpter les bas-reliefs pour éviter des éclats trop gros. Donc c'était quand même des semaines et des semaines de travail par des gens, par des petites mains, mais aussi des spécialistes. Et on estime que ces populations sont arrivées à la fois d'Espagne et en partie du Caucase, et se sont rejointes en Bretagne, qui est devenue une sorte de melting pot. Comment est-ce qu'on dit melting pot, Jean-Claude, en occitan ?
Melting pot.
Melting pot,
avec
voilà.
Avec des guillemets.
Voilà, et dans le documentaire, on nous dit à quel point il est étonnant de voir une telle rencontre culturelle se faire là. Alors moi ça m'intéresse, moi j'ai toujours vu mon père ramener des silex taillés, on a même eu des haches polies qui sont à peu près de la même époque, puisque ces populations qu'on peut dire pré-celtiques, puisque les Celtes sont arrivés vers, on va dire...
700, 800
voilà 5-7 siècles avant Jésus-Christ. Là, on parle de millénaires, on parle de quand même 5000 ans. Alors, dans l'ouest de la France, plutôt 5000 ans, dans l'est de la France, c'est plutôt 2500-3000 ans, et ce ne sont pas les mêmes mégalithes. Hein, c'est-à-dire qu'on a, on a l'impression que tout ça, c'est la même chose, mais enfin, il y a quand même...
Une autre civilisation,
parce qu'il y a souvent 2000 ans de différence entre ces constructions, avec un phénomène très très long, par exemple, qui a duré environ 2000 ans sur la côte atlantique, sur la côte ouest, et puis un phénomène qui a duré beaucoup moins longtemps, quelques centaines d'années, dans le sud-est de la France. Et évidemment, moi, je ne suis pas archéologue, donc s'il y a des personnes qui ont des remarques à faire, qu'elles le fassent en écrivant à la radio, nous serons très contents. Voilà, donc il y a là une civilisation à part entière qui a apparemment rayonné en s'étalant de plus en plus vers le sud et vers l'est.
Il y en a en Corse aussi.
Il y en a, alors je lis, parce que j'ai trouvé sur un forum sur Internet, un commentaire éclairé d'un archéologue, d'un doctorant en archéologie qui explique que même si on trouve toujours ces mégalithes en bordure de mer chez des populations qui n'ont pas d'écriture, et ce qui laisse à penser que ces mégalithes sont des témoignages de mémoire, on les appelle pierres de mémoire, on marque là le début d'une guerre, on marque une catastrophe climatique, on marque l'alliance entre deux clans, on marque une sépulture, etc. C'est peut-être même pour ça qu'on utilise ces pierres, justement parce qu'on n'a pas d'écriture, et c'est un témoignage de la mémoire. Et puis, ce sont toujours des populations qui vivent en bordure de mer, parce qu'il explique qu'il faut des cordes pour tracter. ces mégalithes, même si on les fait rouler sur des rondins de bois. Donc ce sont souvent les marins qui sont les plus à même de traiter ces constructions. Mais il y a des exceptions, puisqu'il dit qu'on en trouve aussi, surprenant, hein, en Mongolie et en Arménie.
Oui.
Et alors, ça m'intéresse particulièrement, puisqu'on en trouve, on en connaît, de ces mégalithes parfois à moitié enfouis. Donc il y en a un à Saint-Antoine-de-Breuil, un petit peu en dessous du lieu-dit bien assis, dans les bois. Et on en trouve un petit peu partout en Dordogne. Alors si vous, il y a une histoire de Bergerac, qui est à la maison, mais malheureusement, je n'ai pas noté le titre exact, une histoire de Bergerac et de sa région, dans laquelle on mentionne un certain nombre de mégalithes dans le Bergeracois, mais pas celui de Saint-Antoine-de-Breuil, par exemple. Parce que certains sont finalement difficiles à atteindre, souvent un peu cachés dans les sous-bois, dans les ronces. Et si autrefois, on a pratiqué des cultes autour de ces pierres, qui sont toujours entourées de mystères, on parle de sacrifices humains, oui, dans des cupules taillées sur la table, voilà, des dolmens, etc. Bon, il n'empêche que malgré tout, en général, les légendes sont des choses qui ne sont pas inventées, on va dire, en continuité avec ces civilisations disparues, mais ce sont des tentatives d'explication beaucoup plus tard. Il y a comme une rupture dans l'histoire de ces constructions et de ces peuples, puisqu'on ne sait pas de qui il s'agit. Et pour autant, on en retrouve, et je trouve ça très émouvant, on en retrouve des traces dans notre langue occitane, puisque malgré tout, certaines racines sont restées bien avant les Romains. Elles ont teinté le dialecte qui est né de la jonction entre le latin et les langues celtiques qui ont suivi ces civilisations. Voilà.
Et quand il suffit de regarder une carte de toponymie, il y a un grand nombre de lieux-dits en Périgord et même ailleurs, qui justement, je crois que pratiquement il y a 556 communes en Périgord, et chaque commune a sa paille relevada, sa pierre relevée, et avec bien sûr, toutes, comme tu dis, avec toutes les légendes qui s'y rapportent. Oui, c'est un mystère, oui, c'est intéressant.
Alors il est probable que la mécanisation en a fait disparaître grand nombre, parce que quand on a voulu rationaliser l'agriculture, on a probablement débité et fait sauter à la dynamite un certain nombre de pierres, j'imagine.
Inévitablement. Oui.
Voilà. Donc il en reste quand même quelques-unes qui sont bien connues, même si l'érosion les abîme. Et en parlant de phénomènes climatiques comme l'érosion, dans ce documentaire sur France TV, on parle déjà de réchauffement climatique il y a 5000 ans, puisqu'on expliquerait la disparition de cette civilisation des menhirs par le fait que c'était peut-être une population qui cultivait, entre guillemets, qui produisait du sel. Et il y a 5000 ans, on a eu une brusque montée, mais probablement très très brusque, au point que le golfe du Morbihan probablement s'est rempli d'un seul coup, ou presque. Et or, à l'époque, il n'y avait pas de marais salants. On lavait le sable plein de sel dans des endroits particuliers où le sable était particulièrement chargé en sel. On le lavait et par décantation, on produisait du sel, ce qui peut expliquer la richesse et la domination par ces peuples-là, qui dans les sépultures montrent par exemple des colliers avec des pierres introuvables ici, ou des haches en jadéite, des haches de cérémonie en jadéite qui venaient d'Espagne ou du nord de l'Italie. Ce qui prouve que les chemins commerciaux, les routes commerciales qui passaient par les fleuves étaient très très pratiquées. Donc, c'est une histoire qui se continue, c'est-à-dire que ces pierres disparaissent petit à petit. On en est peut-être un peu les derniers témoins. Voilà.
C'est intéressant, oui.
Voilà une conclusion un peu cafouilleuse, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. Oui. Je trouve ça c'est vraiment aux racines. Même si elles sont un peu cachées dans notre occitan, tout comme l'occitan est caché dans notre français, il y a donc ce double témoignage, à la fois par la langue et par le paysage.
Très bien. Merci, Marie-Hélène.
Avec plaisir.
Allez, on va continuer notre séquence musicale. Ludolfine, alors ça c'est un grand classique de Radio Grand-Terre. Il n'y a pas une émission Parler Nostro Lingo sans qu'on n'ait pas Ludolfine. Donc voilà, ce sont nos amis des Vallées Italiennes,
ouais.
Voilà, qui nous chantent « Tant de nez, tant de nuit ».
E tu molagne, come sempre tu va, sui boschi, sui prati, sui cristi quintane, si scuola su giro, sa il silenzio di roa, da valo lucero, si noste valade, e su fioluve, come ha sempre soffia, su fatto le brance, caresi pastoral, fai sente sabon, su accordi rive di cumbale, e l'ome da solette va la natura, che fai la sepoltura, notte giunti a sana, cumo di cadre, pità di notte tempo, a sercio da lui e non risulta estrema, dai rocce se dai arbu, e tiri di misum, e raie, idraie, marcada e scarum, segnale messaggi, da clicchi su un passar, e tu che dispara e sparte la nuit, su sari, ma
venga, ci sta.
Che meno festi e si bravi su un bar du bel per bere l'adriero una distacca due mor fresti l'ubacum che voglio de parte una perla ciariero che se infuso ma ne sgardi l'uniera mai su e non smeno dreci a su un bel annuic per respirare l'amico all'assusto del giur. Memoria dell'umbro, usare del cianì, a mesura l'utenta bulu pasti pellegrin, e sente slobus, del verbo che cres, e diales che traversi in segrete naute ciel, accompagnando i suoi miei respiri che sembra, per l'ulime del nebbio entre chi e ma. Sempre tumba, si bosche, si prati, si cresti quintane, scuro da sol nero, sol silenzio di rua, da valo lucero, si noste balades, e su fiolo vento, come sempre su fia, son son veri, veri righi, nevi sera.
De malo su lei, me fa zareggio mai cantà.
Vous êtes sur Radio Grand-Air, notre émission mensuelle consacrée à la culture, la langue occitane. Jean-Claude Dugros, Marie-Hélène Désert, avec en ce mois de novembre, évidemment, quelques lectures, quelques découvertes, Jean-Claude.
Oui, oui, oui. Alors, c'est nos amis auditeurs de Parler Nostro Lingo de Radio Grand-Air ne seront pas étonnés si on lit du Max Rouquette, si on lit du Jean Boudou, parce que nous, on considère que ce sont nos grands auteurs, nos plus grands auteurs. Et notamment, voilà un beau poème de Jean Boudou qui s'appelle La Talvera. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une talvera. On dit aussi une taubera. La taubera, la talvera, c'est le champ. C'est la partie du champ où les bêtes tournaient. On l'appelle aussi la tournière. Et cet endroit-là, quand on arrive en haut de la vigne, les vaches tournent, ou les bœufs, ou le cheval, maintenant le tracteur. Et en haut, cet endroit-là, qui n'est pas cultivé, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait de la place pour tourner, ça s'appelle la Tauvera, la Talvera. Et il y a toute une symbolique, parce que c'est l'endroit où on se repose. Bien souvent, c'est un endroit qui est contre une haie, contre un taillis. Donc, l'été, c'est ombragé. Voilà. Donc, c'est l'été. C'est l'endroit où on s'arrêtait pour le merende, pour casser la croûte. C'est l'endroit. On dit aussi que quelquefois, bon, les jeunes gens, les jeunes filles se donnaient rendez-vous là, parce que c'était ombragé. Il y avait des arbres. Voilà. Donc, la Talvera. La Taubera, c'est quelque chose, il y a une symbolique extraordinaire en occitan. Voilà. Et donc, c'est un peu le. Jean Boudou, il nous dit, c'est un peu le. C'est la limite. Hein, la limite que, au sens propre et au sens figuré, que si on va au-delà, c'est grave. Si on n'y va pas, c'est pas grave. Mais on a tendance à vouloir y aller, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un très beau poème. Et sur la Talvera, qu'est-ce la libertà? La mort qui t'espère garde la verta. Calcegre l'ouriero, lucro del valà, grano la miseria che fluris l'oubla, e sur la talvera che è la libertà. Per passare in siso te revire spas, d'autan o de biso pren l'uve sul nas, uno peiro liso, la ven es al rax, un la serp aniso se fundra l'uglas, per passare in siso te revire spas. Estelo sen luno ne veiren la fim, ne perdren pas uno, cercan l'ucami. L'ucel tout s'engruno del serel mati, la bestio feruno pudis lucani, estelo sen luno ne veiren la fi. Fraire contro fraire tirant le coutel, enfant de ta maire che balla tio pel, la mio bal pagaire, une espèce de fiel, qui na ucel becaire nous picara l'el, fraire contro fraire tirant le coutel. Et sur la talvera qu'est la libertà. D'ourrière en ourrière porte la verta. La vie de t'espère de croiser en balade, boulise la misère quand grano l'oublat. Et sur la talvera est la liberté. Alors je vais vous donner la traduction française. C'est sur la lisière. Alors lui, le traducteur l'appelle la lisière. Effectivement, c'est pas facile. Je crois qu'en français, d'ailleurs, en français savant, on dit le chintre. C-H-I-N-T-R-E. Chintre. C'est sur la lisière qu'est la liberté. La mort qui t'attend dit la vérité. Tu suis la bordure, le creux du fossé. Graine la misère quand fleurit le blé. C'est sur la lisière qu'est la liberté. Pour passer le col, ne te retourne pas. Vent d'autant ou bise, l'air te giflera. Une pierre glisse, le gouffre est en bas. Où le serpent niche, la glace fondra. Pour passer le col, ne te retourne pas. Étoile sans lune, on en voit la femme. On n'en perd pas une, on suit le chemin. Le ciel tombe en miettes, du soir au matin, la bête sauvage pue comme les chiens. Étoile sans lune, on en voit la fin. Frère contre frère, on sort les couteaux. Enfant de ta mère, que vaut donc ta peau? Un peu de fiel, c'est ce que la mienne vaut. Quel oiseau rapace percera nos yeux? Frère contre frère, on sort les couteaux. C'est sur la lisière qu'est la liberté. Doré en oré va la vérité. La vie est à vivre de comme en vallée. La misère au bout qu'engraine le blé. C'est sur la lisière qu'est la liberté. C'est ce poème est chanté. Il est chanté notamment par Mans de Breich.
Et quand on dit la lisière, est-ce que c'est nécessairement en lisière d'un bois?
Ah non,
ça peut être, c'est la lisière. C'est ce qu'on appelle ici la tournée, alors.
Oui, c'est ça, oui, c'est la lisière d'un champ. Oui, oui. C'est l'endroit où, quand on arrive au bout du sillon, on fait demi-tour. Et pour faire demi-tour, il faut un espace assez grand pour que. Mm-hmm. Autrefois, l'attelage de vaches ou de bœufs, et maintenant le tracteur, et puis se tourner. Oui. C'est pour ça qu'on appelle aussi la tournière, je pense.
Mm-hmm. Alors ici, c'est tournée. On dit une tournée ici.
Oui.
C'est aussi là que les mamans installaient leur bébé voilà. pour venir lui donner le sein.
C'est tout à fait ça.
Tout en travaillant de temps en temps, on arrivait au bout du rang et pof.
C'est tout à fait ça. Et bien, on le mettait à l'ombre parce que justement, bien souvent, en haut du sillon, il y a une rangée d'arbres. Oui, oui. La vieillotte. Alors, un autre poème de Jean Boudou. Se sieguette la pauvre vieille sur la porte de l'hostal. Carguet biste las lunettes et commençait son travail. Triavo des fabos grossos, des une toupie descuetat, et sa bête se despachavo. Ma déjà se fasio tard, los pastres en avant claure. Du sommet al campanal, lo clergue sonnait de l'angelus. La vieille levait le cap, pausé le toupie per terre. Humo sanabo segna, veguait la mort d'avant elle, pouguet pas doubla le bras. La mort porta bo la daio, la gusabo a muno cout, et muno cout tout au negro, et disio pa cap de mou. La vieillotte la fintavo, tout au fraîche de Suzou. Mas a bande falastero se plourette comme un nénou, et criguette d'une obuse rauco. Se medai sabes un jour, la seminario et las favos, se medai sabes un jour. Credet a co la vieillotte, disot tous lo pepin. Credete ancora, vieillotto, disono tutti i nini. E se non volete pas creire, vous prendranno nel giardin le giorno che le favos grosses acabaranno di fleurir. E veillerai sur la flor blanca che le rosal fa lusi, une pauvre teco negro, pintrata qui per bon Dio. E se l'udol della vieillotto che le favos del paese, cada un porto, pietadoso, diret un déprofundis. La petite vieille. Elle s'est assise, la pauvre vieille, devant la porte de la maison. Elle a vite mis ses lunettes, elle a commencé son travail. Elle avait à trier des fèves, dans un pot, aux manches cassées. Alors elle se dépêchait. Mais il se faisait déjà tard, les bergers rentraient les brebis. Doucement, en haut du clocher, le bedeau sonnait l'angélus. La vieille a levé la tête, elle a posé son pot de terre. Et comme elle allait se signer, elle a vu la mort devant elle, et n'a pas pu plier son bras. La mort tenait en main sa faux, et l'aiguisait avec sa pierre toute noire, et ne disait pas un seul mot. La pauvre vieille regardait, elle était glacée de sueur. Mais avant de fermer les yeux, elle a pleuré comme un enfant. Elle a crié d'une voix rauque, « Si vous me laissiez un seul jour, j'irai les semer ces fèves, si vous me laissiez un seul jour. » Voilà ce qu'a crié la pauvre vieille. C'est ce que disent tous les anciens. Voilà ce qu'a crié la pauvre vieille, c'est ce que disent tous les enfants. Et si vous ne voulez pas les croire, ils vous mèneront au jardin le jour même où les fèves achèveront de fleurir. Et vous verrez sur les fleurs blanches que la rosée fait resplendir une pauvre tache noire, peinte là par le bon Dieu. C'est le deuil de la pauvre vieille que tous les ans les fèves du pays portent par compassion. Vous direz un déprofundis. C'est beau, hein? Mmh. Voilà. Eh bien, on va arrêter là. On va en garder pour la prochaine fois. Voilà, Jean Boudou, surtout, n'hésitez pas, les gens qui font des ateliers d'Occitan, n'hésitez pas à faire lire, à faire étudier à vos gens des textes de Jean Boudou. Il y a le Libre de Catorio, La Grabo sur le Camille. Voilà, ce sont vraiment des textes magnifiques. C'est Jean Boudou avec Max Rouquette et avec d'autres, c'est certainement un des poètes, un des écrivains majeurs du XXe siècle.
Mais auquel les traductions ne rendent pas toujours justice.
Ah parce non, que non.
Son occitan a une fluidité incroyable.
Voilà, parce que le traducteur, c'est sa traduction à lui. Donc, oui. Parce que Jean Boudou n'a traduit aucun de ses textes, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a traduit, et chacun traduit bien sûr avec sa
sensibilité. Et puis on est contraint par le sens, donc on ne peut pas. La prosodie s'en ressent forcément, oui.
Oui, oui, c'est vrai.
Na 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 na.
fa nu deplasă, se-am panchia din camarul stau. Le-am fumalei pe bun le se strasă, la venii bule ca să fanau. Vanii bule n-au vii la mașină, lui bareții lui zi-n de pistum. Ele o că se scafe la ribă, marcio for că se-am pui de nistru. Vin la grandome scradilo du munde, menagin la nuestro sau. A golis anche la musica suona lei sa navega la nau. Di la grande canzone la planeta vuole puntare strambo. Come un tiranio che già mai sa resto vesi il talento e lei può. Na 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 sverai che siam più del fuseio, navega lus fa cantare lo san. Se sverai che la dea soveio, ora fa pace me l'usean. Dagli lei se bucan della vita, che comence la buona sazun. Se sverai che la de meravio, pensai che la sia la Gesù. Di la grandome sgradiro du munde, menaghi la nuestro sao. A golisi anche la musico suone, lei sa navega la nao. Din la grande canzone della planeta vuole puntare strambo. Come un tiranio che già mai sa che sto vesi talento e lei può.
Na 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 na.
La vira, le notte che la voglia cargar, alla baia lei cavi in tiro, le notte che le spera guardar, e marca che lu passa se scranca, la vetta bagna de nuestri blu, e marca che lu presenza ranca, per si tuba de nuveri flu, di la grandome scradiro du munde, menale la nuestro sao, yeah! A golisi anche la musica suone, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole imputare strambo. Come un tiranio che già mai sa che sto vesita che in tue lei può. Vesita che in tue lei può. Vesita che in tue lei può. Vesitare, vesitare, vesitare in tue lei può. Vesitare, vesitare, vesitare in tue lei può.
Voilà une chanson qu'on pourrait reprendre en refrain, c'est facile pour les paroles nananana.
Tout le monde ne comprend l'occitan.
On peut chanter, on peut le faire avec les mains, avec la langue, enfin on peut tout faire hein, sur Radio Grand Air.
Les petits, les grands. Voilà, alors un petit poème pour terminer, avant de passer à notre rubrique, à notre agenda, voilà. Donc un petit poème donc, de Max Rouquet qui s'appelle « Los Riuset ». Qu'est-ce que c'est qu'un rioucet ? C'est un petit riou. Et qu'est-ce que c'est qu'un riou ? Un riou, c'est un ruisseau. Los rioucet canton papus, en delembrat sul nom, grau finia de las espignos que estrifabon lo mirai. Las espignos que tabé delembrèron sa paraula. De nous venguda o deluvi, quand la terre era tout une, et que d'une cumba à l'autre, los rioucet eron cousi. De nous à s'estrementir, de nous gisclat des avens, amb un ressou ténébrous, un tout obus se perdió. De nun que tenion tout sol, de caro au monde ennemi, et caro son esvanit. Et lo riu ses amudit, et mudo es la cantarelo ca d'usiot canta la ussel. Los riuset canton papus, son escanas de bourdidios. A de que servis un nom? Alors voilà la traduction. Les ruisseaux. Les ruisseaux ne chantent plus. Ils ont oublié leur nom, égratignés par les épines qui déchiraient le miroir. Les épines qui aussi oublièrent leur nom. Des noms venus du déluge, quand la terre n'était qu'une et que d'une combe à l'autre, les ruisseaux étaient cousins. Des noms à s'évanouir, des noms jaillis des gouffres avec un ténébreux écho où toute voix se perdait. Des noms qui tenaient tout seuls face au monde ennemi et qui sont maintenant évanouis. Et le ruisseau s'est tu. Et muette la chanterelle qui faisait chanter l'oiseau. Les ruisseaux ne chantent plus, ils sont étouffés d'ordures. À quoi peut servir un nom ? Alors je pense que c'est un coup de gueule en fait. C'est un coup de. C'est vrai que aujourd'hui les ruisseaux, on a tendance un peu à y jeter tout et n'importe quoi. Ils sont peut-être pas non plus soignés. Ils sont peut-être pas. Autrefois le paysan, il avait le ruisseau au fond du pré. Il coupait bien souvent les branches pour que les bêtes puissent aller le plus près possible de la berge. Il les curait, il les nettoyait. Enfin, le travail des champs, des prés, des bois et des ruisseaux. Autrefois, c'était le travail de la maison. Aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, tout est en.
En jachère.
En jachère. Tout est en pagaille. Voilà. Donc, c'est un petit coup de gueule. C'est bien dit, parce que c'est vrai que. Il y a des ruisseaux qui ont disparu ou et on ne se rappelle plus le nom, alors qu'autrefois, on donnait un nom à tout. On donnait un nom au ruisseau, on donnait un nom à la petite parcelle de terre qui touche l'autre parcelle, etc. Avec des mots riches, avec des mots... Quand on envoyait le petit garçon, la petite fille garder les moutons, il fallait qu'il aille garder à l'endroit bien précis. Alors, on lui donnait tout un tas de noms pour bien lui expliquer que c'est l'endroit où le sol a une branche qui penche du côté. Voilà. Et on trouve ça encore aujourd'hui dans les textes anciens ou dans les cartes.
C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nommer ces ruisseaux leur permet aussi d'être protégés, puisque quelquefois... Pour remembrer une terre, il n'est pas difficile d'aller carrément démolir un petit courant qui s'est un peu asséché. C'est d'ailleurs un enjeu, pas seulement de cartographie, pour préserver ce réseau hydrographique. Oui.
C'est pas gratuit, quoi. Je veux dire, on a, c'est pas faire de l'écologie pour faire de l'écologie, mais quelque part, il y a un côté utile et un côté non seulement utile, mais aussi peut-être définitivement pour la vie humaine.
C'est-à-dire, il y a des zones inondables qui sont inondables parce qu'on a détruit le ruisseau aussi.
C'est vrai.
Il n'y a pas de dégagement des eaux.
Oui, c'est vrai.
On va évoquer évidemment les rendez-vous de ce mois de novembre, l'agenda, quelques sorties en Périgord, ici ou là, ou même en Gironde.
Alors, j'ai reçu de notre amie Jacqueline sur le groupe WhatsApp de notre... comment on dit WhatsApp, Jean-Claude? Je sens que c'est une blague qui va te suivre souvent. Donc, par notre amie Jacqueline sur le groupe WhatsApp de l'atelier d'Occitan, du Pays Foyen. Donc, il y a le 22 novembre, à Rampieux. Rampieux, c'est toujours en Dordogne, n'est-ce pas ? Une série de scénettes, de sketchs en occitan, surtitrés, dit l'affiche, pour le rire et le meilleur. Ça s'appelle Embrouille à la Palanque. Donc ça se passe à la salle des fêtes dans le bourg de Rampieux, le samedi 22 novembre à 20h30. 10 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. Et puis, c'est très en avance, mais ça fait rien, on le dit quand même parce qu'on les aime bien. À l'Aréole, le 30 mai 2026, je le dis d'avance, parce qu'il faut le marquer dans le calendrier.
Bien sûr.
Nadao vient à l'Aréole le 30 mai. Donc, Nadao, ce n'est pas seulement les grandes salles de concert, mais c'est aussi un engagement résolu, on va dire, pour pouvoir couvrir tout le territoire.
Ah oui.
Et je trouve ça très, très chouette. Voilà. Je sais que Jean de Nada adapte le prix des places au budget des associations qui le reçoivent. C'est quand même beau. Ensuite, l'atelier d'Occitan en Pays Foyen se réunit le 19 novembre, le 3 décembre et le 17 décembre. Donc à la salle du Bois Doré, à l'entrée de la résidence pour personnes âgées de Port-Sainte-Foy. Nous accueillons avec grand plaisir toutes les personnes, qu'elles soient débutantes ou non, quel que soit leur dialecte d'ailleurs, pour pouvoir échanger, partager, améliorer notre occitan, ou même faire connaissance avec l'occitan.
Eh bien, on se dit à très vite sur les ondes de Radio Grand Air, Jean-Claude Dugros, Marilène Désert.
Un grand merci, Christophe, d'accueillir l'occitan dans ta radio Grand Air.
Avec le R, on peut tout faire. La région, l'air que l'on respire, l'air que l'on chante.
Rambieux, on peut dire.
Et justement, on va se séparer avec du Bartas.
Allez, Adichat.
Adichat à toutes.
Alcott Kevin.
Les jeunes hommes et les hommes, ben on peut féliciter. La musique magnifique, qu'on gagne une belle falanza. Les jeunes hommes et les hommes, ben on peut féliciter. La musique magnifique, qu'on gagne une belle falanza. Les pistes que commandent, per toutes les terrenues. Ta ben nous recommande, de dire pas sous nous. Elle s'attrape l'influro, qu'avait sous ben al pè. Et sa prene mesure, car est un cordonnier. Les jeunes hommes et les hommes, ben un per félicita. La musique magnifique, qu'on gagne une belle falanza. Les jeunes hommes et les hommes, ben un per félicita. La musique magnifique, qu'on gagne une belle falanza. Aïchi a ben la basse, che disme va tout cas. Cancias che de la classe, se vulguez marida. Le bure de reservo che savio fabrica, le mettete in conservo, sa fenno va a mangiare. Le genomes e les hommes, ben un per felicità. La musica magnifico, con gano e ben fa danza. Le genomes e les hommes, ben un per felicità. La musica magnifico, con gano e ben fa danza.
Lu de la clarinetto, sembra lu mai crentus, alla usit cacacchetto. Sembro che Zamorus, la sfio del villaggio, di son cagradat, e tra poche dumage, che si asche marida.
Le genomes e les hommes, ben un per felicità, la musica magnifico, con gano e ben fa danza. Le genomes e les hommes, ben un per felicità, la musica magnifico, con gano e ben fa danza.
Attimo, mon ami.
La ballo de farina, caro vos presenta,
attaccio
buonamina,
sembri
del vetera.
Per buttare trombuno, per crento pai de gus, mai calci un dopo muno, demando pare più. Per buttare trombuno, per crento pai de gus, mai calci un dopo muno, demando pare più.
Les genomes et les hommes, ben un per felicita. La musique magnifique, qu'on gagne une ben fa danza. Les genomes et les hommes, ben un per felicita. La musique magnifique, qu'on gagne une ben fa danza. Les genomes et les hommes, ben un per felicita. La musique magnifique, qu'on gagne une ben fa danza. Les genomes et les hommes, ben un per felicita. La musique magnifique, qu'on gagne une ben fa danza. Qu'on gagne une ben fa danza. Qu'on gagne une ben fa danza. Qu'on gagne une ben fa danza.